à l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'Ici l'ombre, depuis la Halle à Dieulefit, samedi 10 juillet à 19h.
La prison, elle existe dans nos sociétés depuis on ne sait combien de temps. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est devenue une peine après la révolution de 1789. Avant, elle se contentait de garder les suspects quelques jours ou quelques semaines avant un jugement et l'application d'une peine qui allait du bannissement à l'écartèlement en place publique. Aujourd'hui, on peut y rester jusqu'à perpétuité et même y mourir, surtout y mourir. On compte un suicide tous les deux ou trois jours, 7 fois plus que dans la vie normale. On voit qu'on est loin du fantasme Club Med auquel beaucoup de gens font référence. On constate aussi que le nombre de condamnations est en forte hausse et que les peines prononcées sont de plus en plus sévères, alors même que le nombre de délits et crimes reste stable. Enfin, les taux élevés de récidive témoignent des carences, voire de l'inefficacité du système judiciaire et pénal. On connaît également les causes qui conduisent beaucoup de très jeunes gens en prison. La pauvreté, les discriminations, le mépris, les inégalités que la crise sanitaire a encore accentuées. Et tout ce qui ressort des discours politiques actuellement, toutes tendances confondues, c'est plus de sévérité, moins de laxisme, plus de prison, pour dire qu'on est en période électorale, avec sous-entendu plus de contrôle social, plus de police, plus de caméras, et pour conséquence, moins de liberté publique. Et pour animer ce débat, j'ai avec moi Frédéric Monod.
Qui est donc avec Louis Perrigo. Alors, pour parler de tout ça, nous avons invité Florence Loffert, directrice de Prison Insider. Bonjour Florence.
Bonjour.
Nous avons invité aussi Roxana Nazerzadeh, avocate pénaliste. Bonjour.
Bonjour.
Qui était cet après-midi dans le parc de la Baume pour une magnifique conférence. Et puis nous avons aussi Damien Scalia, professeur et directeur du Centre de recherche en droit pénal à l'Université de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin aussi François Saint-Pierre, avocat pénaliste et écrivain, auteur de plusieurs essais, dont le premier que voici, « Un pays qui voudrait rester libre, chronique d'une accoutumance sécuritaire ». Bonjour.
On vous propose de commencer par un petit tour de table et déjà voir si vous êtes d'accord avec cette brève présentation du système, enfin de la situation judiciaire et pénale. Qui veut commencer ?
Bien, évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec cette présentation qui a été faite, avec cette nuance que vous indiquez, la prison peut peut-être être inefficace, mais il me semble que ça a été démontré que la prison est inefficace.
Bien sûr que nous vivons une époque extraordinaire, et c'est notamment dû aux circonstances. Pendant la révolte des Gilets jaunes, on a assisté à une répression de ce mouvement social. Quoi qu'on en pense, quels qu'ont été les débordements des Gilets jaunes, totalement inacceptables. Nous avons vu qu'une trentaine de manifestants s'étaient fait amputer d'une main ou avaient perdu un œil à cause de grenades ou de tirs des forces de police. Nous avons un problème majeur de maintien de l'ordre. Et cela est dû à ce gouvernement, à ce préfet de police de Paris, M. Lallemand. Bon. Donc, nous sommes dans une situation de crise qu'il faut absolument questionner et dénouer. Il faut en revenir à un maintien de l'ordre républicain qui n'éborne pas les gens, qui ne les ampute pas et surtout qui ne dissuade pas la population d'aller manifester. Parce que c'est ça qui est en cause, c'est qu'une telle violence d'État dans la répression des manifestations induit nécessairement un effraiement, une frayeur. Et donc, les gens ne vont plus manifester. C'est un droit fondamental. Ça, c'est une chose. Mais durant la pandémie, nous avons assisté à quelque chose d'absolument extraordinaire qui était justifié peut-être par des raisons sanitaires. 70 millions de personnes en France et autant dans les autres pays se sont vues assignées à résidence. Bon, donc, en soi, cela pouvait être justifié à un moment donné. Le problème, c'est que l'on voit se développer une surveillance policière de la société de manière pérenne. Je prends un exemple parmi d'autres, c'est l'usage des drones policiers. Le ministère de l'Intérieur a commandé 650 drones policiers pour surveiller les gens dans les rues. sans aucun cadre légal, sans que l'on sache si l'on peut identifier les gens, voir ce qu'ils font, y compris filmer chez eux. Il se trouve que le Conseil d'État a donné tort au ministre de l'Intérieur, au préfet de police, et cela, et c'est essentiel à souligner, à la demande d'une association qui est remarquable, qui s'appelle la Quadrature du Net, qui s'est donnée pour mission de défendre les libertés fondamentales dans notre monde numérique, et non pas d'être contre le monde numérique. C'est un état de fait, et en plus, cela permet un développement des libertés considérables. Mais nous avons assisté là à quelque chose d'absolument extraordinaire. Le gouvernement souhaitait placer sous surveillance par des robots la population dans son ensemble. Alors, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas découragé. Il a néanmoins fait voter une loi qui permettait un tel contrôle, et c'est le Conseil constitutionnel qui a infirmé cela. Ce à quoi on assiste, c'est également une émergence du pouvoir judiciaire qui va infirmer des excès de pouvoir du gouvernement ou des lois qui portent vraiment atteinte aux libertés fondamentales. Et je termine ce propos vif par le constat de ce que la menace terroriste, qui est constante, que je ne minore jamais, n'est-ce pas, eh bien, développe un sentiment d'insécurité tel que, en réaction, ce gouvernement, mais comme les précédents, en est arrivé à dire que la sécurité est la première de nos libertés. Ici, à Dieulfi, nous en avons parlé hier, et nous avons dénoncé cette perversion de la pensée politique. C'est faux. La sécurité est une donnée essentielle, mais ce n'est certainement pas une liberté. Je voudrais conclure d'un mot. Le gouvernement fait passer trois lois phares, dont les titres sont absolument extraordinaires. La première, c'est sécurité globale. Bienvenue dans ce monde global de sécurité. Et pas une seule fois dans cette loi ne figurait le mot de liberté. Heureusement, le Conseil constitutionnel l'a carrément réduite à rien du tout. Bon, la seconde loi, c'est confiance dans la justice. Moi, je suis un partisan d'un système judiciaire développé, je défends des magistrats, mais confiance dans la justice, jamais. Jamais, parce que la justice est un pouvoir, et comme tout pouvoir, il abuse de ses pouvoirs. Bon, et en plus, ce projet de loi est porté par un ministre de la justice, dont je ne demande qu'une chose, c'est la démission, et sans tarder, en raison de son comportement brutal et violent, de son incompétence juridique, et en plus, il faut le constater, de son manque de probité, n'est-ce pas? Nous vivons une situation qui est vraiment dramatique à cet égard. Et la dernière loi? Alors la dernière loi, dans sa première version, elle s'appelait contre le séparatisme. Puis c'était tellement grossier que ça s'appelle une loi sur quoi? Les principes fondamentaux de la République? Mais c'est une loi de répression considérable. Et par conséquent, il nous faut ici, dans votre radio, et merci de cette invitation, débattre de ces sujets pour dire que non, on ne peut pas se plier à des impératifs sécuritaires, sinon notre pays va vraiment sombrer dans un régime de nature autoritaire.
Alors, vous avez cité ce passage de la sécurité, la première des libertés. Est-ce qu'on n'a pas fait une inversion, la liberté est la première des sécurités? On va demander peut-être à Florence Lauferd ce qu'elle en pense et poursuivre.
Un constat qui est fait à l'international, c'est que la prison a peu à voir avec le maintien de l'ordre. Le taux d'incarcération n'est pas corrélé à la criminalité, aux incivilités. C'est beaucoup plus le résultat d'une politique. Et le constat qui est fait dans la majorité du pays du monde, c'est que les personnes en prison sont des pauvres, sont des minorités, sont des opposants politiques, sont des gens différents. C'est beaucoup les gens différents qu'on retrouve aux prisons, et c'est rarement les gens au pouvoir, aux porteurs de pouvoir. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on puisse, et on y viendra penser du sens de l'enfermement, ou du sens déclaré, ou de l'inefficacité de l'enfermement, ce qui est certain, et ça c'est aussi un constat dans l'énorme majorité des prisons du monde, c'est que l'enfermement abîme. L'enfermement ne répare pas, ne reconstruit pas. C'est donc, d'une certaine façon, une solution qu'il faut questionner, soit dans son intégralité, soit dans ses parties, pour voir qu'est-ce qui se passe en prison qui empêche toute une partie de personnes emprisonnées de ressortir avec quelque chose qui pourrait potentiellement les aider à refaire société.
Alors, qui veut réagir là sur... Damien ?
Moi, je crois que presque tout a été dit, mais en tout cas, je prolonge ce que viennent de dire mes collègues, avec un point peut-être, c'est qu'on est, en regardant ce système, qui est le système pénal par la lorgnette de la prison, c'est la petite lorgnette. On ne peut pas aujourd'hui, à mon sens, changer la prison sans changer tout le système pénal. Le système pénal repose sur la prison, repose sur son opacité, repose sur cette peur qu'on veut de la prison, et on aura beau l'ouvrir, on aura beau y faire rentrer du culturel, y faire rentrer des associations, y faire rentrer des droits, on reste avec un système pénal qui surincarcère la population, on reste avec une surcriminalisation des comportements, et à ce niveau-là, les lois citées par François sont tout à fait abjectes. Et il faut, à mon avis, sortir un peu de la bouteille à mouche pour sortir du droit, c'est-à-dire ne pas rester dans ce système pour voir clairement que ce maintien de l'ordre est un ordre que les anards ou les marxistes diront un ordre bourgeois, ou en tout cas, on voit bien que les comportements criminalisés sont certains types de comportements. Pour preuve, quand vous voyez les comportements qu'on dit la criminalité en col blanc, celle-ci ne passe pas par la case prison, ne passe même pas par la case pénale, bien souvent. Et c'est ici un choix politique, et il ne faut pas oublier que le droit et ses lois sont des outils politiques de domination. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, à mon avis, sortir de cette domination pour pouvoir remettre en cause la prison elle-même et le pénal qui est consubstantiel à cette prison et inversement.
Alors, remise en cause du système pénal, qu'est-ce qu'en pense Roxana Nazarzadeh ?
Oui, je pense qu'il est clair que finalement, la prison est associée à la justice, bien évidemment, comme l'exécution d'une décision de justice. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, chaque magistrat a, de par le code pénal, la possibilité de ne pas envoyer la personne qu'elle vient de condamner à la prison. Plus encore, le législateur lui impose le fait de choisir la prison ferme exécutée immédiatement, en tout dernier choix, lorsqu'il n'y a plus aucune possibilité. Il n'empêche qu'il y a effectivement une surincarcération des personnes. Donc c'est le système pénal qu'il faut interroger. À cet égard, on peut également prendre l'exemple à l'étranger. Florence Loffler le saura bien mieux dire que moi. Mais par exemple, je regardais le taux de personnes détenues par rapport à la population en général au Japon. Ce taux est relativement bas. Il y a peu de personnes qui sont emprisonnées au Japon par rapport à la proportion de la population intégrale au Japon. Donc on peut se dire, dis donc, voilà un système qui est bien. Et non, parce que par ailleurs, je crois qu'il y a 90%, si ce n'est pas 99,9% des personnes qui sont renvoyées devant un tribunal au Japon, qui se retrouvent condamnées. Donc effectivement, je reviens à ce que disait Damien, au-delà de l'emprisonnement se pose la question du système pénal et comment il est pratiqué.
François, peut-être.
Je crois que la prison a pour racine une culture de la punition, et Roxana Nazarzadeh, dans sa très belle conférence de cet après-midi, expliquait bien que c'était devenu la peine de référence à partir de la Révolution française, et plus exactement dans le code pénal napoléonien. Alors, c'était un code qui pratiquait la peine de mort pour de très nombreux crimes, et pour le reste, la prison. Bon. C'est devenu une référence systématique, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et je prends un exemple bien concret. En 2014, la ministre de la Justice était Christiane Taubira. Elle avait fait voter une loi qui prévoyait une nouvelle peine qui s'appelait la contrainte pénale. Le mot même de prison, d'emprisonnement, n'était pas employé. Or, cette peine, c'était ni plus ni moins que l'équivalent d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve. C'est-à-dire d'une peine de prison avec sursis avec mise à l'épreuve. Donc on s'est interrogé sur la question de savoir pourquoi donc cette peine n'a quasiment jamais été appliquée par les magistrats, au point qu'en 2019, donc 5 ans après, elle a simplement été abrogée du code pénal par une nouvelle loi. Et je pense que le fait même que cette peine ne comportait pas le mot prison, eh bien, a fait qu'elle n'a pas été du tout utilisée. Donc nous avons un réflexe culturel extrêmement profond qui fait que toute infraction pénale doit par principe être punie d'une peine d'emprisonnement. Alors c'est vrai que de manière subsidiaire, dirais-je, Il y a des peines avec sursis, il y a des aménagements, des peines de jour amende, et Roxana Nazrazadeh l'a très bien décrit tout à l'heure dans sa conférence, mais c'est la peine de prison. Alors ça se vérifie comment ? Ben, par le nombre de peines de prison prononcées, et très concrètement, par le nombre de prisonniers qui sont dans les établissements pénitentiaires, et surtout le taux de surpopulation. Ça n'a cessé de croître, ça fait quand même quelques années que je pratique cette honorable profession d'avocat, ça a toujours cru jusqu'à atteindre quasiment 70 000 personnes. Ce qui s'est passé pendant le confinement est quelque chose d'assez extraordinaire. L'administration était extrêmement inquiète d'une flambée de pandémie de coronavirus dans les établissements pénitentiaires. De mon point de vue, la situation était plutôt bien gérée à cet égard puisque ça n'a pas eu lieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pendant cette période-là, les juges d'application des peines, très soucieux de limiter ce risque au maximum, ont pris l'initiative par eux-mêmes, dossier par dossier, au cas par cas, de libérer jusqu'à 15 000 personnes. 15 000 personnes ont été libérées, ce qui fait que pour la première fois depuis des années et des années, la jauge, si je puis employer cette expression assez, assez peu appropriée en vérité, est descendue sous le taux. Alors, pas dans toutes les prisons, parce que certaines prisons sont restées très surpeuplées, Nîmes par exemple, mais dans d'autres, et globalement, le taux a beaucoup baissé.
La surpopulation ne serait pas une fatalité, donc.
Mais c'est exactement ce que je veux dire. Et notamment, les juges, les tribunaux, avec les moyens juridiques qui sont les leurs, ont les moyens de droit de limiter la hausse de la population pénale. Le problème, c'est quand on a cette discussion avec de nombreux magistrats, ils n'acceptent pas cette mise en cause. Parce que pour eux, la loi leur imposerait de prononcer des peines de prison ferme en fonction de la gravité, etc. Mais également sous la pression des procureurs. Et là, nous avons un effet de hiérarchie où les procureurs doivent requérir à l'audience des peines de prison ferme, en rendre compte à leur hiérarchie. Et bien, les tribunaux arbitrent entre la demande du procureur, celle de la défense. Sinon, il y a un appel du procureur et les cours d'appel rétablissent le cours des choses. Donc nous avons un système judiciaire qui fait que les peines de prison sont prononcées de plus en plus, nonobstant les possibilités de faire autrement. La crise du coronavirus aura provoqué certaines évolutions. Je ne sais pas si celle-ci sera pérenne. Et d'autant moins que l'actuel ministre de la Justice, je redis que je souhaite sa démission le plus vite possible, a eu l'idée désastreuse de supprimer les crédits de peine pour les remplacer par des remises de peine. Et Louis, si c'est possible, j'aimerais qu'on reparle de ça tout à l'heure.
Volontiers. C'est un ancien confrère.
Un ex.
Florence.
On dit que la nature a horreur du vide. Et moi, je commence à avoir l'impression que le politique, la politique, a horreur de la complexité et de la nuance. J'ouvre peut-être j'enfonce une porte ouverte. Le pénal, le pénitentiaire est complexe. Il n'y a pas de réponse simple dans les principes. Il n'y a pas, je pense, de compréhension simple dans le fonctionnement. Ce qui fait que face à cette incompréhension ou cette difficulté à faire face à la complexité, on tombe dans une tentation, à mon avis, assez systématique. C'est le sécuritaire, c'est le punitif. Quand on n'arrive pas à bien comprendre que faire face à un problème, on juge blanc ou noir, coupable ou innocent. Et c'est ce qui fait que le recours le plus facile, le réflexe, retombe souvent sur le sécuritaire et sur le punitif. On le voit dans le pénal et on le voit à l'intérieur des systèmes carcéraux, où quand il y a des petits progrès qui peuvent être faits, des ouvertures, des tentations vers plus d'humanisation, très facilement, ça revient en arrière. Ça m'amène à la question de la connaissance du droit et la connaissance des droits, qui, à mon avis, sont vraiment des éléments inconditionnels pour saisir la complexité, mais aussi pour amener un changement. Et ce n'est pas dans une approche simplement prescriptive, mais c'est dans une compréhension de ce qui se passe, ce à quoi on a le droit, la façon dans laquelle c'est respecté ou pas, qu'on arrive à engager plus de responsabilités. C'est une des choses qu'on fait à Prison Insider, c'est d'essayer d'informer pour que les gens s'engagent, pour qu'ils se sentent concernés. Et ça va être autant à l'échelle d'un citoyen que d'un décideur, que toutes sortes de personnes. Ce qu'on a vu avec le coronavirus, effectivement, dans les prisons du monde entier, ça a été énormément de fermetures, un réflexe face à l'incompréhension de ce que le virus pouvait provoquer, mais une grosse peur. Tout le monde a dit, les prisons sont des cocottes minutes. C'était quand même le premier réflexe. Et ce qui s'est passé dans pratiquement tous les systèmes pénitentiaires du monde, ça a été la fermeture. Plus de visites, souvent plus d'entrées d'avocats, plus de permissions, plus de visites aussi pour les mécanismes de prévention de la torture. Et ça a été un vrai blackout, enfin une vraie fermeture de l'information, contre laquelle, à Prison Insider, on a lutté en documentant avec un fil d'actualité tout ce qui sortait, hein, et certains pays avaient parfois de l'information, d'autres rien du tout. Mais on s'est rendu compte que cette tentation de la fermeture venait très vite, et on avait beau la comprendre parfois avec des mesures de prudence, puisqu'il ne faut pas que le coronavirus rentre en prison, eh bien, fermons les portes, empêchons les entrées. Alors d'abord, c'était que partiellement vrai, puisqu'il y a de toute façon tous les personnels qui rentrent, donc le mouvement était là. Et puis même dans des mesures de prévention qui pouvaient, pour une certaine dimension, être comprises, comme étant indiquées pour des raisons sanitaires, on a vu énormément d'effets secondaires négatifs, prévus ou pas prévus, des taux de suicide en hausse, des dépressions, des émeutes, hein, on en a plus entendu parler. Et ça, c'est tout ce qui se passe quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'information. Et c'est un de nos chevaux de bataille, c'est parler, faire penser à la prison, non pas nécessairement pour simplement dénoncer ou dire ben voilà la piste qu'il faut prendre, mais faire en sorte que chacun se sente concerné.
Mais vous parlez d'information et de complexité du système pénal. Le citoyen que je qualifierais sans être péjoratif du tout, mais de moyen, c'est-à-dire moi, on n'a pas cette information et on n'a pas forcément envie d'aller la chercher. Et on ne maîtrise absolument pas tout ce que vous venez de décrire les uns et les autres. Mais on pourrait aussi avoir l'avis de Damien sur cette question.
Mais je crois qu'il y a deux choses. D'abord, peut-être pour rebondir sur ce que Florence disait, puis après je me permets de donner mon avis par rapport à votre question, et qui est tout à fait, à mon avis, pertinente. D'abord, sur la question des droits, je pense qu'il ne faut pas oublier que si les droits permettent de gagner certains combats au niveau individuel, au niveau collectif, en prison, c'est quand même pas grand-chose. On n'est que dans des droits subjectifs, on n'est quand même que dans des plaintes qui concernent principalement un individu. Et au niveau collectif, le droit ou la juridictionnalisation de la prison, à savoir la possibilité pour un détenu d'aller porter plainte pour des conditions de détention ou pour une décision qui serait contraire à des droits, justement, a aussi eu comme effet pervers de légitimer d'une certaine manière la prison. À savoir, plus la prison, on avait une critique de la prison qui était radicale parce qu'elle ne correspondait pas à certains droits, maintenant que les droits sont en prison, entre guillemets, je mets ça parce qu'ils ne sont pas toujours respectés par ailleurs, la critique est beaucoup plus compliquée, puisqu'on va nous dire, oui, mais les détenus sont bien traités. Alors déjà, ce n'est pas tout à fait vrai. Et par ailleurs, fondamentalement, ce n'est pas parce que les détenus sont bien traités que la prison est nécessaire. Donc ça, c'est déjà un effet pervers par rapport à ces droits, et des droits qui, faut le rappeler quand même, permettent qu'aujourd'hui, la moitié des détenus en France, ou en tout cas en Belgique, sont innocents, puisqu'ils sont avant jugement. Donc on a quand même 50% de personnes enfermées qui sont innocentes. Et on ne parle pas après des autres infractions où on pourrait quand même se dire aujourd'hui, eh ben, quel est l'intérêt d'aller sanctionner la consommation de drogue et de mettre quelqu'un en prison? Quel est l'intérêt d'aller sanctionner la vente de drogue? Et pourquoi on ne prend pas exemple sur des États qui ont libéralisé, qui permettraient aujourd'hui très facilement de réduire de 40-50% des personnes derrière les barreaux? Donc ça, il y a déjà quelque chose à ce niveau-là où le droit est un outil aussi d'enfermement. Et je pense que même si, et je suis juriste, donc je suis peut-être un peu mal pris pour moi-même critiquer le droit, on a quelque chose de pervers dans ce droit qu'il faut arriver à dépasser. Plus sur votre deuxième question, par rapport au fait, oui, la population ou en tant que non-expert ne connaît pas tout ça. Je crois que c'est beaucoup plus intuitif en fait que ça. On sait clairement ou on a l'impression de savoir qui qu'on soit, et je ne crois pas qu'ici il y ait besoin d'être expert, qu'il y a des choses qui peuvent se faire ou pas faire. On a été éduqué en se disant qu'il y a le bien, le mal. Alors parfois mal placé, hein, cette limite, mais en tout cas, c'est quelque chose de très intuitif. Et moi, j'ai le sentiment que le discours politique actuel joue sur cette intuition en restant dans quelque chose de non expliqué. À savoir, il y a des choses mal, alors il faut de la prison. Or, fondamentalement, il y a plein de gens qui sont en détention et qui n'ont jamais fait quelque chose de mal. C'est juste que la société a décidé que les comportements étaient mal. Mais je pense que si on discute, là, on est une trentaine dans la salle, je pense qu'on n'a pas tous la même morale et qu'il y a plein de comportements qu'on estime ne pas être mal, alors qu'on punit quand même. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour justement se dire, mais en fait, ce comportement-là, il ne mérite pas une punition. D'ailleurs, il mérite rien du tout. Et si on va voir un peu à l'étranger, bah c'est des comportements qui ne sont pas réprimés. Et c'est à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait besoin d'être expert par rapport à ça, en fait.
Effectivement, il n'y a pas besoin d'être expert. Et puis alors, je n'ai pas du tout envie d'être expert en droit.
Je vous comprends tellement.
Mais en même temps, quand on s'adresse comme ça dans des discussions, une fois de plus, ça va paraître un peu péjoratif, mais des discussions de café... pas forcément du commerce, mais bon. Et la réponse quand même tout de suite sur les prisons, c'est s'il n'y a pas de prison, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et s'il n'y a pas de peine, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Et je crois que Roxana avait une belle démonstration cet après-midi là-dessus.
Bien, d'abord, je voudrais dire quelque chose en tant que citoyen citoyenne française. J'ai pas passé de contrat avec les autres citoyens. J'en ai passé un avec l'État. À l'État, j'ai délégué deux de mes biens les plus précieux. Le premier, c'est le droit de propriété, puisque je paye des impôts. Et le deuxième est celui de pouvoir faire les lois, puisque j'ai élu des parlementaires, etc., pour voter les lois. Et si j'ai concédé ces deux droits fondamentaux à l'État, c'est en échange d'une seule et unique chose, c'est pour être en sécurité. Et si, en sortant de votre radio, quelqu'un m'agresse pour me voler mon téléphone portable, je n'ai passé aucun contrat avec cette personne. Je n'étais pas convenue avec elle qu'il ne faut pas qu'elle me frappe pour me prendre mon téléphone portable. Elle ne me doit rien. Et c'est aussi simple que ça. En revanche, l'État me doit quelque chose. Et l'État devait garantir ma sécurité. Pourtant, moi, j'ai payé ma part du contrat. Et l'État n'a pas payé sa part de contrat. Donc, je pense que le premier dysfonctionnement est celui de l'État, à qui je devrais devoir demander des comptes et demander le remboursement de mon téléphone portable et éventuellement mon préjudice. Et puis, à côté de ça, celui ou celle qui m'a agressé a également concédé un certain nombre de droits. Pour, en contrepartie, avoir la sécurité, celle de ne pas être agressée, mais également la sécurité de, quelles que soient ses origines culturelles, ethniques, sociales, pouvoir bénéficier d'une éducation, d'une information, un tas de choses qui l'auraient empêché de m'agresser et de me prendre mon téléphone portable. Il s'avère que à travers le biais des discriminations, cette personne n'a pas eu non plus ces droits-là. Donc nous comprenons bien que quand il y a un responsable à chercher, ce n'est peut-être pas forcément dans l'individu qu'il faut le chercher, dans l'État. Et on revient à, faut-il punir? Est-ce que le comportement est punissable? Et que peut amener la punition? On nous dit souvent par quoi remplacer la prison. Et moi, je dis que si j'ai une dent qui est pourrie, qu'il faut l'enlever, et que je dis à une amie, tiens, j'ai une dent qui est pourrie, je vais l'enlever, la personne ne va pas me répondre, mais dis donc, par quoi tu vas la remplacer? Nous sommes là en train de dire que la prison est d'abord quelque chose d'inhumain, de dégradant. Nous sommes les seuls animaux à enfermer nos semblables. Je veux dire, un lion ne va pas enfermer un autre lion en cage parce qu'il n'est pas respecté, l'autre lion n'a pas respecté les règles. Et nous savons que ça se fait dans des conditions tout à fait inhumaines et dégradantes. Par ailleurs, quels que soient les droits qui rentrent, la culture qui rentre, le seul fait d'être enfermé, le seul fait de ne pas avoir une vie privée, le seul fait de ne pas avoir une vie intime, etc., etc., sont là. Et on prend en compte également un autre élément qui, en France, la justice est rendue au nom du peuple français. Donc, la justice est rendue en notre nom à nous tous. Et peut-être parce que c'est rendu entre nos noms à tous, nous devons savoir qu'est-ce qu'il se cache derrière. Et peut-être sommes-nous tous pas d'accord pour dire que la punition ne résout rien, puisque la récidive existe, puisque l'insécurité, puisque c'est le phénomène phare, existe également. Et donc, lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, on change totalement de méthode de travail. Si vous aviez un avion qui était construit par telle compagnie et qui n'arrêtait pas de faire des crashs, eh bien, on regarderait qu'est-ce qui ne va pas, on ne continuerait pas à prendre cet avion. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si, si, c'est extrêmement clair et c'est bien ça que je voulais vous faire dire auprès des auditeurs et auditrices.
Alors, il y a énormément d'arguments contre la prison, contre la peine, contre avec ses corollaires de surpopulation, comment on explique que les gens comprennent finalement, puisqu'il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a des arguments très pertinents, et en même temps on réclame plus de punition. Comment on explique ça?
Internet qui permet une meilleure information. On va au-delà du discours officiel du 20h de TF1. On peut vraiment se renseigner sur les sujets qui nous intéressent, que ce soit l'environnement, la sécurité, sur tous les sujets qui peuvent nous intéresser. Les gens lisent beaucoup, écoutent beaucoup. Mais c'est vrai aussi qu'il y a, notamment à la télévision, des discours assez primaires et manipulateurs qui peuvent erreur. Je pense que le gouvernement, et notamment ce gouvernement, emploie un discours manipulateur et mensonger dans de très nombreuses circonstances. J'évoquais des questions de remise de peine ou de crédit de peine. Ce ministre de la Justice n'a rien trouvé de mieux que d'annoncer qu'il fallait en finir avec les crédits de peine. Mais c'est du populisme de bas étage et ça ne trompe personne, et à tel point qu'il n'arrivera jamais à faire passer cette loi qui est dangereuse pour la sécurité. De quoi s'agit-il en deux mots? Depuis 2004, et c'était un ministre de droite, Dominique Perben, qui lui avait une ligne, qui a institué ces crédits de peine à la place des anciennes remises de peine. C'est-à-dire qu'une personne, elle est condamnée à une peine de prison, quand elle arrive en prison, on lui notifie son crédit de peine. C'est 3 mois par an et autres, etc. Et donc ça, voilà. Et si elle commet une infraction disciplinaire, on va lui décompter des crédits de peine à titre de sanction. Ce ministre-là, eh bien, n'a rien trouvé de mieux que dire non, on supprime ça parce que c'est pas moral. Les gens viennent, ils pensent déjà qu'ils peuvent, entre guillemets, gratter. C'est son expression vulgaire, parce que cet homme est vulgaire, n'est-ce pas? Et donc, il piéserait avec les peines en permanence. Le problème, c'est que si on renoue avec le système ancien des remises de peine, c'est une prime à la bonne conduite. C'est-à-dire vous avez 3 ans de prison, vous allez faire 3 ans de prison. Si vous êtes bien, on va vous donner 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'expérience montre, et Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux privatifs de liberté, l'a redit hier, nous avions un débat, c'est un système extrêmement inégalitaire. Parce que les juges, selon leur perception, leur pratique locale, ont des pratiques de remise de peine très, très variées. Et donc, nous aboutirions à un système encore plus inégalitaire qu'il ne l'est. Et surtout, sur le plan collectif et global, nous relancerions une hausse de la population pénale majeure. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si ce n'est que là, il y a typiquement un discours du ministre de la Justice, et ça n'est pas pour rien, du ministre de la Justice qui devrait donner confiance dans la justice et qui, en vérité, va nous vendre une soupe qui est extrêmement dangereuse pour l'équilibre de l'institution. Donc, il faut dépasser les discours officiels. Vous avez une presse, et alors là, nous sommes dans un état de liberté. Chacun pense ce qu'il veut, chacun vote ce qu'il veut, mais il faut se renseigner. Et l'émission que vous deux vous animez aujourd'hui, j'espère, participe à ce débat démocratique d'expliquer de manière critique comment fonctionne ce système pénal. C'est vraiment extrêmement important pour que personne dans ce pays ne soit dupe d'une fake news gouvernementale ou autre. Et nous avons aujourd'hui tous les moyens de nous faire notre opinion critique sur des sujets de société. Voilà.
C'est
c'est compliqué, l'opinion publique. je suis d'accord avec ce que François disait hein, sur le gouvernement actuel. Je pense que les deux précédents n'ont pas aidé non plus, et celui d'avant encore moins. Alors vous allez me dire, ouais, il n'y a pas un gouvernement qui a rattrapé l'autre. Non, je pense qu'on est quand même depuis le début des années...
Toutes tendances confondues,
ouais, c'est ça que je voulais dire. Merci Louis de me... Effectivement, je pense que droite-gauche, ou ni l'un ni l'autre, comme on l'entend aujourd'hui, n'a pas aidé dans cette idée-là, parce que... je reviens sur ce que disait Florence tout à l'heure, on a quelque chose de simple dans la prison. Il y a un comportement, il ne nous convient pas, ou il ne convient pas à certaines personnes, on enferme ou on punit. Il y a quelque chose de plus compliqué de comprendre pourquoi le comportement est là, quel est le contexte sociétal dans lequel le comportement apparaît, contexte sociétal qui est fondamental. On sait que la majeure partie de ce qu'on appelle infraction est liée à un contexte sociétal, à un contexte financier. Et aujourd'hui, expliquer ça quand on est politique dans une visée de 5 ans, puisque l'idée, c'est de se faire réélire dans les 5 ans, ça prend du temps. Donc je pense qu'ici, il y a un vrai travail qui est fait par les médias comme celui sur lequel on est aujourd'hui, qui est fait par d'autres médias indépendants, qui est moins fait par certains médias qui ont pignon sur rue peut-être, mais certains sont quand même assez critiques. Je pense qu'il ne faut juste pas gouverner en se basant sur l'opinion publique. Ça ne veut rien dire, l'opinion publique, aujourd'hui. L'opinion publique, c'est celui qui en parle, qui dit ce qu'elle dit, en gros. Et aujourd'hui, bah, quand un président, un ministre de la Justice ou autre nous dit « l'opinion publique demande », non, c'est lui qui demande et qui prend l'opinion publique comme alibi. Or, l'opinion publique n'est pas existante. Sociologiquement, d'ailleurs, c'est un concept qui existe assez peu. Non, on a des entretiens avec des individus, on a des parcours de vie, on doit écouter les personnes, mais l'opinion publique ne veut rien dire. Ça, c'est un élément de réponse, mais qui vaut ce qui vaut, et je ne suis pas du tout spécialiste de la socio. Par ailleurs, sur la question par quoi remplacer la prison, mais je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Je pense qu'elle n'a pas à être remplacée. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Oksana. Je pense que pourquoi est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent être vus comme des problèmes. Les mouvements abolitionnistes vont parler de situations problèmes ou situations problématiques. Oui, effectivement, je me fais voler ou je me fais taper, c'est un problème, mais ce n'est pas obligatoirement une infraction en tant que telle. Et parmi tout ça, il y a encore beaucoup de comportements. Alors, les drogues est un exemple assez facile, mais qui ne nécessite pas aujourd'hui juste de réponse, en fait. Si, une réponse de santé publique, oui. Mais la réponse de santé publique, ce n'est pas une réponse pénale, en fait. Et le pénal donne bien son nom, il est là pour punir, il est là pour faire de la peine, au sens juridique du terme, mais aussi au sens émotionnel du terme. On est là pour faire de la peine. Eh bien non, il faut sortir de cette idée qu'il faut peiner les gens, qu'il faut leur faire de la peine. Non, la loi du talion a été vue au départ comme quelque chose de progressiste, c'est-à-dire œil pour œil, ça veut dire qu'il y avait une proportionnalité. Aujourd'hui, on doit dépasser cette loi-là, même si on n'est plus dans la loi du talion, on n'est pas là pour faire de la peine. L'État n'est pas là pour faire de la peine, mais pour reconstruire le lien social, et ce n'est pas par le pénal qu'on reconstruit le lien social.
Alors, il y a des périodes dans l'histoire où des politiques courageux ont quand même lutté pour supprimer l'esclavage, supprimer les pénalités en cas d'avortement. Est-ce que ça veut dire que nos hommes politiques, actuellement dans nos démocraties, n'ont plus ce courage-là et s'appuient justement sur ce fonds de commerce un peu rance-là de la sécurité pour continuer à gérer le pays ?
Moi, je pense que... Pardon. Je pense que le débat qu'on a ici permet de faire germer des idées, des courants de pensée. Et ça peut prendre du temps. Et il faut ensuite des circonstances pour que les choses changent. Ça a été le cas dans le monde pénal de la peine de mort, qui a été extrêmement pratiquée. Il faut quand même bien se rendre compte que des centaines et des centaines de condamnés à mort ont été guillotinés en France depuis la Révolution, le Premier Empire, tout le 19e siècle, et ça jusqu'en 1981. Je voudrais rappeler, pour dire de quelle est notre histoire, que pendant les années 56 à 62, plus de 220 condamnés à mort ont été guillotinés pour des faits en relation avec le FLN algérien. 220 personnes guillotinées À Alger, à la prison Barberousse, il y avait des semaines où il y avait une dizaine de condamnés décapités. Enfin, il faut imaginer cette ultra-violence, n'est-ce pas, de la justice sur la population française et algérienne de l'époque. Bon, donc nous avons à cet égard avancé, c'est le moins que l'on puisse dire. Le bagne. Le bagne a été l'alternative, pour le coup, et là, ce que disait Roxana Nazarzadeh est très juste, à la prison la pire. Par quoi remplacer la prison ? Par le bagne. Ils sont bien, ils sont en plein air. Ah ouais ? Ça a été des dizaines de milliers de condamnés dont l'espérance de vie était de 2 ou 3 ans. C'était le bagne de Guyane, le bagne de Nouvelle-Calédonie. On oublie beaucoup trop souvent le bagne d'Indochine, comme on disait à l'époque, de Pulau-Condor, qui était un archipel concentrationnaire, n'est-ce pas ? Bon. Et il a fallu là aussi, on citait Victor Hugo pour la peine de mort, là c'est un journaliste qui s'appelait Albert Londres, qui est allé et qui, dans les années 30, a publié un livre qui s'appelait Au bagne. Et il a raconté ce qui s'y passait. Eh bien, dans les 5-6 ans qui ont suivi, il a été décidé de fermer les bagnes. Il se trouve que la guerre est venue et ce n'est qu'en 1946 que ces bagnes ont été fermées. Et donc, les personnes, ça a été la grande époque des centrales, de Clairvaux à l'époque notamment, qui ont amené vraiment à une prise de conscience, de contestation des conditions de la prison à cette époque. Et je veux dire encore une fois ici que l'OIP, puis Prison Insider, ont germé là dans l'esprit de Bernard Bolz pour dénoncer une violence faite aux personnes au nom d'une justice et d'un intérêt général, dirons-nous, mais une violence qui ne se justifie pas en réalité. Bon, donc je veux dire ainsi par ces exemples assez simples que les débats, les critiques permettent de bouger des montagnes, mais bien sûr.
En sachant que ce n'est jamais acquis, si je me souviens bien, dans les années 80, le ministre de la Justice, qui s'appelait Perfit, voulait réouvrir des bagnes à Kerguelen, là-bas,
oui,
aux Antipodes.
C'est récurrent, c'est encore le cas maintenant, où, comment s'appelle-t-il, mais peu importe les noms, voulait réouvrir le bagne de Cayenne, disait-il. Entre nous, à Cayenne, il n'y a jamais eu de bagne. Hein. Bon, c'était au Maroni ou aux Îles du Salut ou ailleurs. Bon. Pour tous les fichiers S ou les condamnés terroristes. Et puis, comme il se disait, ouais, c'est trop proche, au Kerguelen. Donc, très intéressant. Non, mais c'est d'un niveau remarquable. Et on a eu ainsi de nombreuses propositions tout à fait aberrantes, y compris à cause des attentats terroristes, d'interner à titre préventif tous les fichiers S. Le fichier S est un fichier de police. Et la police a besoin de fichiers de renseignement. Enfin, ça n'a jamais été pensé comme la constitution d'un dossier judiciaire pour voir d'abord et avant tout si une personne est coupable ou innocente, etc. Je voudrais quand même rappeler que M. Wauquiez, hein, qui vient de remporter brillamment la présidence de les régionales Rhône-Alpes, présidait le parti Les Républicains il y a quelques années et a proposé cela au temps des attentats. Voilà un homme d'une très grande intelligence, d'une grande culture, qui est parfaitement légitime à devenir président de la République un jour, le sait-on, et qui, appliquant une telle mesure, enverrait 10 000 personnes en rétention administrative. Mais il suffit de voir la catastrophe absolue qu'a été Guantanamo pour les États-Unis après l'attentat du 11 septembre 2001. Donc je pense qu'il y a une irresponsabilité du discours politique qui est grave. Quand Bertrand, qui lui aussi a brillamment été réélu à la tête de la région des Hauts-de-France, et qui lui aussi serait légitime à devenir président de la République un jour, dit, dès qu'il y a une attaque de policiers, condamnation systématique, et il faudrait des tickets de prison à 50 ans. Mais de quoi parle-t-il ? Du procès de cour d'assises qui a eu lieu dans la région parisienne récemment, la plupart des accusés ont été acquittés par un jury populaire qui a constaté qu'il n'y avait aucune preuve contre ces personnes. Donc on a un discours de politique qui est complètement cinglé. Je finis cette attaque en règle en ciblant maintenant Madame Pécresse. Elle aussi, brillamment réélue, parfaite candidate pour la présidentielle, d'une parfaite culture, mais d'un cynisme que je n'apprécie pas. C'est elle, et tout ce que je dis est sourcé. Hein. Je fiche tout ce que disent les uns et les autres sur ces sujets-là. À plusieurs reprises, elle a dit « Tenez-vous bien, qu'il fallait changer le code pénal et qu'il fallait double peine. Double peine pour qui ? Pour les gens qui habitent en banlieue, dans le 93 par exemple. Ah ben c'est sûr qu'à Neuilly, il faut deux fois moins. Mais c'est n'importe quoi. Donc vous comprenez, quand le discours sur la prison, sur la justice pénale, les libertés, la sécurité est dans les mains de personnes aussi irresponsables et des incendiaires, je dis c'est grave. Qui exerce son contre-pouvoir ? Nous, les citoyens. Mais pas seulement aux élections, parce que la démocratie, c'est pas seulement le fait d'aller voter tous les 5 ans, d'accord ? C'est le fait d'exercer de manière effective des libertés fondamentales. Et là, ce que nous faisons ici, en tenant la parole de cette manière-là, nous faisons quoi ? Nous exerçons notre liberté constitutionnelle d'expression. Et par conséquent, nous souhaitons que nous soyons entendus et que, par exemple, les gens ne votent plus pour ce gouvernement. Il y a démérité.
Dans le registre des remises en cause du système pénal, actuellement, le président de la République s'est engagé sur le fameux ancien article 64 et l'irresponsabilité. Il y a eu une affaire qui a perturbé grandement l'opinion publique qui n'existe pas et qui, où ils veulent modifier le système pour qu'il y ait toujours quand même cette dimension pénale avec sur l'altération ou l'abolition du discernement.
Moi, je voulais réagir sur ta question précédente.
Allons-y.
Tu demandais si notre gouvernement, nos gouvernements, moi, j'ai plusieurs nationalités, donc je peux me targuer de plusieurs gouvernements, n'avaient pas le courage politique de s'attaquer à la question de la prison. Moi, je pense qu'ils n'en ont pas du tout envie. Ils ne se sentent pas investis de cette mission-là. Moi, je pense que beaucoup de gouvernements modernes, occidentaux, sont beaucoup plus dans une logique de management, dans un sens pauvre, efficacité, rapidité, enfin le management dans son sens le plus mesquin, on peut dire. Donc les questions sociales, les questions éthiques, c'est pas leur... À mon avis, ce n'est pas leur tasse de thé. Hein. Donc on peut bien dire que c'est pauvre, mais en fait, ils ne se donnent pas cette mission. C'est mon impression. Je pense qu'une chose importante doit être faite dans ce contexte-là, et c'est peut-être un des vrais bastions à préserver, et Jean-Marie Delarue en parlait très bien hier, c'est la question des contre-pouvoirs, du contrôle, des différentes formes de contrôle. Et ça va du contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mécanismes nationaux de prévention dans d'autres pays, mais ça va sur toutes ces institutions, tout ce tissu associatif, officiel et institutionnel, enfin les CPT, tous ces mouvements-là. Et ça va dans la dimension implacable du message qui est « il y a une redevabilité et il y a une information qui circule et ». J'aurais envie de dire, il n'y a pas d'impunité, mais au moins, c'est-à-dire, si ça se sait, ben, Roxana en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut reconnaître une faute ? Est-ce que le pénitentiaire doit reconnaître ses fautes quand il traite mal les prisonniers ? Ça ne réglera pas tout, mais je pense que c'est déjà quand même quelque chose. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne au mot ces gouvernements dans leur optique de management. On va vous évaluer. On va évaluer comment ça marche. Et là, j'aurais envie de dire, on part... de la question de la position abolitionniste ou réformiste. Et après Insider, c'est un peu ce qu'on fait. On essaie de comprendre sans nécessairement aller sur une piste ou l'autre. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fait mal ? À qui ça fait mal ? Qu'est-ce que ça produit ? Quand vous avez des conditions de détention qui sont déplorables, quel est le coût de la journée de prison ? Mais quel est le coût plus tard sur toute la société ? Quel est le coût sur la famille ? Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire circuler ces questions-là pour que ça revienne, que ça ressorte de cette zone d'ombre, parce que la prison, c'est la réponse facile, et ça, Damien l'a dit, et une fois que la réponse est donnée, la personne est derrière les barreaux, et franchement, on l'entend très peu. C'est très difficile de faire sortir cette voix-là. Donc, il est très tentant de l'oublier. La société a tellement d'autres problèmes, on peut se dire, finalement, voilà, 70 000 personnes, il y a plein d'autres problèmes en France, plein d'autres personnes en France qui ont des problèmes. Il faut faire remonter cette voie-là, il faut faire reconnecter, il faut reconnecter tous les défis que vivent les personnes en détention et leurs proches avec tous les défis du reste de la société. Et c'est pour ça que je reparle beaucoup du citoyen et de la complexité, et ça peut paraître parfois mission impossible. Je suis moi-même une généraliste, je ne suis pas du tout juriste, enfin je suis géographe, mais enfin je navigue entre plein de disciplines. Je suis très souvent dépassée par la complexité des systèmes qu'on analyse, et je me sers de moi-même comme d'un test. Si j'arrive à le comprendre, c'est qu'on peut le faire comprendre à d'autres personnes. On a souvent ces discussions avec les collègues. Je dis, là, c'est trop compliqué pour moi. C'est peut-être factuel, mais je n'arrive rien à en faire. Je pense vraiment que c'est une vraie mission d'intérêt public de faire sortir cette information, de l'amener à des gens. Et c'est le côté compliqué d'une plateforme d'information, d'un média. On vient vous amener une information que vous n'avez pas demandé. Et peut-être vous ne pensiez pas en avoir besoin, et peut-être que la première fois qu'on vous l'amène, elle déconcerte. Mais c'est une mission, c'est une forme de sacerdoce, on va de l'avant. On utilise aussi des moyens d'information, je ne veux pas dire qu'ils sont ceux de l'ennemi, mais on essaye aussi, dans l'effort de simplification et de vulgarisation, de ramener du réel et du vécu et de l'émotion. On n'a pas très envie que l'émotion soit hijacké, comme on dit ça en français, soit monopolisé par ceux qui utilisent la sécurité. La peur, c'est une émotion très forte, elle marche très bien. Si on peut avoir un tout petit peu d'empathie en contre-émotion, je pense que ça se défend, et c'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on fait sans manipulation, mais c'est aussi pour ça qu'on utilise le témoignage, l'expérience vécue, le récit. Et je pense que le citoyen peut se faire embrouiller l'esprit si on lui donne des chiffres, des coûts, des solutions faciles et qu'on brandit la menace des banlieues, etc. Il se laisse un tout petit peu moins embrouiller l'esprit quand on entend le témoignage d'une femme de personne en prison qui dit pendant 20 ans, j'ai vécu ceci. Ou un détenu qui dit effectivement, en arrivant, j'étais particulièrement confus par rapport à ce que je pouvais faire à l'extérieur, et c'est pas la prison qui m'a aidée, bien au contraire, elle m'a poussée dans telle ou telle direction. C'est cette dimension humaine-là qu'il faut aussi vraiment connecter aux politiques, et qui peut, en plus des autres mécanismes de contrôle plus formels, faire contre-pouvoir.
Et ça, c'est votre rôle, je le rappelle pour les auditeurs et les auditrices, votre rôle à Prison Insider, je vais arriver à le dire, donc cette association lyonnaise, si je ne me trompe.
Oui.
Qui a un site, ça serait bien de donner le site.
Oui, qui a un site d'information, prison-insider.com. Tout est gratuit, tout est en accès libre, tout est en trois langues. Alors pour les auditeurs d'ici, c'est plutôt le français, mais pour les anglophones et les hispanophones, c'est aussi en trois langues. Et c'est actualisé régulièrement. Et on peut s'informer par le biais d'une lettre, une lettre d'information qui paraît toutes les deux semaines et qui vous donne toutes les actualités publiées sur notre site.
Et il faut absolument aller sur ce site et faire aller les gens sur ce site parce que, si j'ai bonne mémoire, on a quand même massivement voté Wauquiez. Enfin, non, on s'est massivement abstenu.
Alors là, vous évoquez un outil qui est assez extraordinaire, qui a ses limites aussi, comme tous les outils. Quels sont les autres leviers pour essayer de faire un peu avancer le débat et sortir justement de cette émotion qui gouverne un peu les esprits.
Bon, Prison Insider, c'est vraiment un projet remarquable parce qu'il s'agit justement de montrer les faits, la réalité, une vérité des faits, pour justement casser ces discours abstraits et manipulateurs. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Après, je pense qu'il est très utile pour les avocats qui vont porter la parole pour leurs clients dans les tribunaux, là où se jouent les décisions de condamnation, d'aménagement de peine. Par conséquent, ça permet au monde judiciaire d'être beaucoup plus cultivé, d'avoir beaucoup plus d'informations sur une réalité que tout le monde ne connaît pas en vérité. Nous, les avocats, la prison, on va au parloir avocat, on en ressort, on n'en voit vraiment pas grand-chose en vérité. Bon. Donc ça, c'est très, extrêmement important. Nous avons également la presse qui joue un rôle majeur. Et vous savez que maintenant, la presse peut rentrer dans les prisons. Et de la même façon, nous avons des députés qui se rendent dans les prisons pour examiner les conditions de détention. Ce sont des choses nouvelles. Donc nous avons de nombreux moyens d'action que peuvent utiliser les uns et les autres pour faire sortir de l'ombre donc, ces conditions carcérales.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Est-ce que je rappelle que cette émission a lieu en public. Est-ce que dans le public, il y aurait éventuellement une question à poser à nos invités ? je prends au dépourvu, je ne sais pas. Non ? Bon. Qui veut conclure ? Enfin, Roxana.
Écoutez, moi j'ai un esprit aussi simple et simpliste que nos gouvernants. Et je constate que les gens qui rentrent en prison, ils rentrent de plus en plus nombreux et de plus en plus longtemps. Et comme vous le rappeliez, Louis, alors même que les délits et les crimes n'ont pas bougé. Et je suis simple et je puis dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la sécurité, le nombre de délits et de crimes, et le nombre d'années d'emprisonnement et le nombre de personnes incarcérées. Et comme en plus je suis très intéressée par ma situation financière, je constate qu'une personne détenue coûte entre 100 et 300 euros par jour aux contribuables. Et je me dis, rien que parce que ça me coûte de l'argent, et rien que parce que ça n'a aucune corrélation avec la sécurité, peut-être bien qu'il y a un vrai problème à emprisonner les gens, et peut-être que c'est un des derniers lieux de légitimité de l'État, puisque aujourd'hui je peux aller dans une école privée, je peux aller dans un hôpital privé, je peux absolument tout faire de manière privée, mais la violence légitime reste celle de l'État, que ce soit à travers la police, dans les mesures de police, ou que ce soit à travers la violence imposée avec l'enfermement.
Quelques mots en conclusion aussi, Damien ?
Je crois que Roxana a tout dit et effectivement, je crois qu'il faut aussi faire ces calculs-là sur l'ouverture que Prison Insider fait, que les députés, alors on rappellera que c'est quand même eux qui votent les lois puis après qui vont en prison, donc je suis toujours un peu surpris de les voir des deux côtés, mais c'est vrai que c'est une ouverture. Fondamentalement, et c'est pas un appel à la violence, mais je pense pas que... je pense que les prisons ont le plus évolué au moment où il y a eu des émeutes, en fait. Et donc, il y a une collectivisation du militantisme et du combat qui doit se faire aussi à l'intérieur. Et l'individualisation par les droits a empêché cette collectivisation du combat. Alors, non pas obligatoirement violent, mais il n'empêche que les prisons ont le plus évolué au moment où le JIP a fait sortir des émeutes, a fait sortir des combats et des combats collectifs. Et je pense que c'est là le cœur du combat contre la prison. On est à l'extérieur, on doit soutenir ça, mais c'est fondamentalement à l'intérieur aussi que ça doit pouvoir se faire, tout en sachant, et c'est facile, moi qui suis à l'extérieur, de le dire, qu'à l'intérieur, c'est compliqué, parce qu'on a le carcéral broie et qu'on doit se sortir individuellement à l'intérieur. Mais je pense quand même que c'est la collectivisation et, malheureusement, quelque chose de plus radical qui permettra de passer autre chose que la prison.
Eh bien, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que l'émission se termine ainsi. Je fais l'animateur.
Merci beaucoup et merci à vous.
Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission d'ici l'ombre.
Merci.
Bonne soirée. Merci.